Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre-à-terre, dynamique et passionnée. Disponible et transparent, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, les placements, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété, s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier.
Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 96 du Temps d'arrêt. Je reçois un de nos chroniqueurs football, Michael et Montcharlant, ça va bien?
Ben oui, ça va bien toi?
Ben super bien, après avoir eu la chance d'être avec Thierry la semaine passée, ben là on passe à notre deuxième chroniqueur. On va mettre la table sur cette finale, demi-finale de la NFL, finale d'association. Donc, yes. On continue ce gros bloc football du temps d'arrêt au mois de janvier qui va nous mener évidemment dans deux semaines ou la semaine qui va précéder le Super Bowl. Beaucoup de bon football à venir d'ici là. Et autant qu'avec Thierry, on s'est dit que les matchs de premier tour nous ont un peu laissé sur notre appétit. On avait de grosses attentes pour les matchs du week-end passé, on était franchement pas déçus. On y viendra avec un résumé, un sommaire, si on veut, de ce qui s'est passé. Grosse surprise dans ce deuxième tour. Comment tu as vécu un petit peu ce week-end-là là, de deuxième tour et de l'entrée en scène des deux équipes numéro un, là, les Chiefs et les Lions?
Oui, ben écoute, la surprise, moi, je ne l'attendais pas. Où est-ce qu'elle est arrivée? Moi, je voyais peut-être plus là les... Écoute, si on voulait un upset spectaculaire, moi, je voyais peut-être plus Denver qui aurait pu chauffer les Bills, mais finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Puis, écoute, l'entrée en scène...
Ça, c'était le tour d'avant, en fait. C'était au premier tour, mais...
Oui, non, t'as raison. Mais écoute, Houston, Kansas City... Ça, j'ai pas été surpris, tu sais, les Chiefs ont passé, mais il y a eu une petite controverse au niveau de l'arbitrage. Au pire, on en reparlera, mais ça a sorti dans les entrevues aussi des joueurs des Texans. Washington-Détroit, un feu d'artifice absolument incroyable, enlevant du début à la fin, littéralement. Puis, écoute, Philadelphie, LA Rams.
Aussi enlevant jusqu'à la fin, Ravens, Bills,
enlevant
jusqu'à la fin.
Enlevant quelques déceptions, mais ça a été enlevant, effectivement. Puis Bills, Ravens, moi, je voyais ça comme le Super Bowl avant le Super Bowl. Les deux MVP contenders qui s'affrontaient, vraiment, on était gâtés. Là.
Allons-y d'un résumé rapide de ces quatre affrontements qui nous mèneront justement aux quatre dernières équipes qui restent dans la NFL. Alors, les Texans contre les Chiefs, là, la défensive de Kansas City a été plus que dominante, réalisant 8 sacks sur CJ Stroud, le limitant grandement dans son impact. Pat Mahomes n'a pas semblé pouvoir trouver du momentum dans cette partie, alors qu'il a terminé à 177 verges par la passe, mais uniquement 117 de ces 177-là à Travis Kelce. Aussi un touché à sa fiche, victoire de 23-14 des Chiefs. Commanders contre Lyon, malgré l'excellente performance de Jameer Gibbs, Jared Goff et le reste de l'attaque ont commis 4 virements qui auront été fort coûteux, alors que Goff a terminé avec un pauvre passing rate de 59.7. De l'autre côté, Jaden Daniels est resté calme, efficace et explosif. Le corps arrière de Washington a profité des faiblesses de la défensive des Lions. Énorme surprise alors que les premiers au classement sont éliminés, victoire des Commanders 45-31. Rams contre Eagles. Le jeune front défensif des Rams a été encore une fois dominant, réussissant 7 sacks. Malgré des bons moments pour Puka Nacua et Kyren Williams, l'attaque des Rams a manqué quelques jeux clés. Du côté des Eagles, avec un jeu par la passe quasi inexistant, c'est Saquon Barkley et ses 205 verges au sol qui auraient fait la différence avec la défensive qui ont mené Philadelphie vers une victoire de 28-22. Finalement, les Ravens contre les Bills, le duel fort tant attendu n'aura pas déçu. Malgré une performance plus qu'explosive de l'attaque des Ravens, on a commis des ratés lors de moments clés et ça aura fait la différence. Josh Allen et son attaque n'en ont fait que suffisamment prendre du momentum. Et malgré qu'ils n'aient pas été explosifs, ils ont été efficaces. Victoire des Bills 27-25. Il nous reste donc un affrontement, un dimanche dans lequel nous aurons droit à deux matchs. D'un côté, je pense que Bills contre Chiefs, on aurait pu anticiper ça. Mais de l'autre, Commanders-Eagles, on va se dire, c'est quand même surprenant. Les Eagles, on les attendait, les Commanders, pas mal moins, là.
Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est une belle histoire. Puis les Commanders, écoute, moi, Jaden Daniels, honnêtement, on a appris à le connaître un petit peu cette saison, évidemment. Là, puis, tu sais, on regardait ses matchs, les faits saillants, puis c'était vraiment spectaculaire, les fins de match serrées que les Commanders ont connues. Fait que, tu sais, ça me dit, OK, ce gars-là, il a du sang-froid quand même. Là. Il est capable d'aller chercher des grosses victoires dans des moments très, très, très intenses. Puis, écoute, tu le regardais sur le banc la dernière game, puis il était assis, puis des fois, on dirait il se demandait qu'est-ce qu'il faisait là sur le terrain. Tu sais, je suis qui, moi? Tu sais, on dirait qu'il...
Ça aurait pu être une partie qui disputait, une partie de saison régulière qui disputait à son high school. Ça aurait été pratiquement pareil. Là.
Absolument. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça très, très, très impressionnant. Puis, tu sais, il a mis l'équipe sur ses épaules. Là, faire ce nombre de points-là contre les Lions, qui étaient les numéros un, sont arrivés à Détroit, un environnement très, très hostile. Puis, écoute, il était vraiment pas impressionné. Là.
Et la NFL a le don de mettre ses bons affrontements au bon moment. On a terminé le week-end passé avec un Bills-Ravens. Ça a été enlevant jusqu'à la toute fin. Mm-hmm. Là, encore une fois, on disait qu'on a peut-être un affrontement un petit peu moins sexy sur papier entre Commanders et Eagles. On va rentrer dans les détails, mais c'est quand même deux bonnes équipes. Mais on place notre gros affrontement dimanche soir. Les Chiefs contre les Bills, ça va être un classique. On va y venir dans la deuxième partie de notre analyse. Commençons tout de suite, justement. On va mettre la table sur ces deux affrontements-là qui se tiendront tous les deux le dimanche. Le premier, à 15h, les Commanders qui rendent visite aux Eagles. C'est intéressant, deux équipes de la même section. Alors qu'on disait que la meilleure section de la NFL était clairement la division Nord, il n'y a plus une seule équipe qui fait partie, alors qu'on a deux équipes de l'Est de cette nationale-là. Mais à la semaine 11, on a eu le droit à une victoire de Philadelphie de 26-18. À la semaine 16, on a eu une victoire de 36-33 des Commanders. Mais attention, Jalen Hurts n'avait pas passé tout le match. Il avait été blessé lors de ce match-là. Donc, exact. Deux équipes qui se connaissent bien, qui s'affrontent. Commençons d'un point de vue de l'attaque des Eagles. Rapidement, on constate un net avantage au niveau de l'attaque au sol des Eagles contre le jeu au sol des Commanders, qui est 30e.
Oui, absolument. Puis, on a un joueur tout étoile. Saquon Barkley fait la pluie et le beau temps dans ces séries-là. Écoute, tu regardes le nombre de verges là, qu'il a amassé. Puis, c'est surtout le match-up. En saison, les Commanders, ils sont 30e contre le jeu au sol. Donc, écoute, je vois pas Saquon Barkley connaître un mauvais match. Là. Il va être encore une fois dominant. Puis, tu sais, je l'ai dit souvent au podcast ici, mais dès que ton jeu au sol fonctionne, le reste de ton attaque, c'est tellement plus facile. Ça enlève énormément de pression sur ton corps arrière. Parce que, écoute, quand tu fais des jeux de passe, mais finalement, tu as les secondaires qui viennent remplir la boîte pour bloquer le running back. Fait que ça crée des couvertures homme à homme, donc un petit peu moins de couverture pour les receveurs. Puis, ça va faciliter le travail de Jalen Hurts qui, honnêtement, n'a pas été super excellent, je vous dirais, là, dans le dernier match, mettons.
Pas du tout. C'est pour continuer un petit peu sur l'aspect du jeu au sol.
Oui, oui.
La semaine passée, Jahmyr Gibbs, 105 verges en seulement 14 courses. Je pense qu'on ne serait vraiment pas surpris de voir un 25 courses de Saquon Barkley. La ligne offensive est excellente pour lui créer des brèches. Dans ses deux duels contre les Commanders cette année, ça a été 146 et 150 verges. Il a inscrit deux touchés lors des deux matchs. Donc, on s'attend à un feu d'artifice de son côté. Comme tu dis, Jalen Hurts, ça a été assez laborieux. Semaine 1, il avait fait le strict nécessaire pour gagner lors de la première semaine des éliminatoires. La semaine passée, Il a semblé chercher ses repères. Il ne voyait pas la pression qui se dirigeait vers lui. Il avait beaucoup, beaucoup de difficultés à atteindre ses receveurs préférés. Là, c'est les meilleurs receveurs de l'équipe. On est quand même bien nantis du côté des Eagles. Il doit être plus impliqué que ça. Là. AJ Brown, c'est 10 et 14 verges lors des deux matchs de série. Devante Smith, c'est 55 et 21. Là. Il va falloir que Jalen Hurts soit en mesure que lorsque sa première option n'est pas disponible, d'aller à la deuxième, à la troisième. Ça, il a eu beaucoup de mal à le faire là, la semaine passée contre les Rams.
Il a eu du mal à le faire. Puis, tu sais, c'est une jeune défensive, celle des Rams, mais j'ai l'impression que leur couverture était relativement bonne. Mais c'est sûr qu'il faut quand même que tu laisses la chance à tes gros joueurs de faire les attrapés contestés. Tu sais, comme tu as dit, 10 verges contre, je parle d'AJ Brown, 10 verges contre les Packers, puis après ça, 14 verges. À un moment donné, je comprends qu'il est peut-être couvert, mais à un contre un, laisser la chance de sauter puis aller chercher le ballon, c'est ce genre de joueur-là, tu sais, qui peut faire des gros jeux. Puis, il faut l'impliquer, là. Il est aveugle de sortir un autre livre encore.
Ben oui. Mais pour donner un petit peu de crédit à Hurts, il y a un moment dans le match où Brown aurait dû faire l'attraper. Ça n'a pas été fait. Mais j'ai l'impression que c'est un gars qui devient meilleur plus on lui passe le ballon. Il faudrait qu'il voit un 7-8 target dans le match pour qu'il soit à son meilleur. Lorsqu'on lui lance trois ballons dans le match, ben peut-être qu'il va en échapper un parce qu'il est un petit peu endormi. Fait à souligner quand même là, qu'on gardera une attention particulière, Jalen Hurts peut être une menace avec ses jambes. Il peut, lorsqu'il voit justement la misère, avoir ses options 2, 3, 4. Donc, ce qu'il va souvent faire, dérober d'un côté ou de l'autre, courir. Mais là, ça risque d'être pas mal plus difficile. Là. Il a subi une blessure au genou quand même considérable. Ouais. Il n'aura pas besoin d'opération, du moins à court terme. Donc, pourra jouer clairement mal en point. Ça va avoir un impact. On n'aura peut-être pas besoin du côté de la défensive des Commanders de placer un espion pour justement faire attention à ces dérobades-là. Là.
Exactement. Donc, ça va compliquer peut-être un petit peu sa vie là, au niveau du jeu aérien. Donc, si par exemple, là, le secondaire, si je prends Bobby Wagner, s'il n'a pas besoin de faire son espion ou avec Hurts, ça se peut qu'il couvre un receveur. Donc, une double couverture sur justement AJ Brown ou Devante Smith. Donc, ça va être plus difficile à ce niveau-là. Mais la ligne à l'attaque des Eagles est très dominante. Là. Ils sont capables de quitter leur position rapidement. Puis après ça, aller faire des blocs sur les plus vers le côté du terrain. Donc, tu sais, ça se peut qu'ils utilisent moins ses jambes, mais je ne serais pas surpris des passes courtes. Puis après ça, les gros joueurs de la ligne en attaque aillent sur le côté, puis après ça, avancent de cette façon-là. Ça, c'est peut-être une façon, tu sais, quand tu as un receveur, justement, AJ Brown, qui n'est pas impliqué, tu fais une passe dans le flanc, tu amènes tes gros joueurs de ligne qui sont assez mobiles, puis là, il va chercher des verges et dans le match, puis ça pourrait être une solution là, pour l'impliquer un petit peu plus.
Comme tu l'as dit, là, ils sont athlétiques. J'ai été surpris de voir dans le match un des joueurs de ligne offensive, Mackie Becton, être pénalisé parce qu'il avait réalisé un bloc trop loin au moment que la passe a été faite. On a une limite où les joueurs de ligne peuvent franchir au premier contact, là, lorsque le ballon est attrapé, on peut aller aussi loin qu'on veut. Par contre, on est justement rapide, mais c'est effectivement une stratégie forte, intéressante, dont on espère que les Eagles l'adopteront. Parlons quand même de la défensive des Commanders. Oui, on a une faiblesse contre la course, mais par la passe, on est dominant. Là. Depuis le mois de décembre, on a 7 victoires de suite et cette défensive-là n'est pas étrangère à leur succès. On est parvenu à contrer des rangées de travail de tous les corps qu'on a affrontés. Le maraudeur Jeremy Chin fait de l'excellent travail. Belle acquisition, celle de Marshon Lattimore, le demi de coin, l'ancien des Saints. Le secondaire Frankie Louvu, qui est dominant en ce moment. Donc, on a des joueurs au sein de ces secondaires-là et de cette tertiaire qui font en sorte que ce ne sera pas facile, justement, pour Jalen Hurts d'aller chercher un rythme par la passe. Là.
Non, exactement. Puis, on parlait la semaine passée de Jared Goff là, qui a connu une sortie difficile, mais écoute, donnons crédit peut-être à Washington aussi là, qui ont peut-être fait la vie dure. Là, on lance le pot à Jared, mais il y a une défense de l'autre côté aussi qui ont fait les jeux quand même, qui ont réussi ces interceptions-là. Puis t'es nommé là, Louvu, Fowler, c'est Écoute, c'est quand même beaucoup de sacs. Puis Jalen Hurts a eu beaucoup de difficultés à voir les sacs arriver. Je trouvais le dernier match, pour une raison XY, là, tu sais, s'est fait saquer, je sais pas combien de fois le dernier
Ah,
match, là,
le
mais.
toucher de sûreté, c'est inacceptable qu'il se fasse saquer à ce moment-là. Là, on l'a vu venir à des milles.
Ben oui, exactement. Fait que, tu sais, je comprends que nous, on le regarde à la télé, mais en même temps, lui, il est supposé être un des bons, puis il a pas vu venir ça. Il s'est fait saquer 7 fois. Donc, tu sais, il va falloir qu'il se débarrasse du ballon parce que, d'après moi, Washington, ils ont vu un filon en quelque part, là. Tu sais, ils vont regarder les bandes vidéo du dernier match, puis s'il s'est fait saquer 7 fois, ben, ils vont essayer de faire la même formule, puis de rendre ça assez serré, là.
L'attaque des Commanders et surtout Jaden Daniels était très impressionnant depuis le parcours éliminatoire. Il est autant une menace sur la voie aérienne que par le jeu au sol. On a un passing rate de 122,9 et de 110,2 lors de ces deux rencontres-là. On a une chimie évidente avec Terry McLaurin, le meilleur receveur de l'équipe. Puis le 24 novembre, là, Terry McLaurin, c'est 9 touchés captés. Donc, c'est une menace. On l'a vu utiliser sa grande vitesse contre les Lions pour faire un toucher. Encore une fois, je le répète pour la troisième semaine de suite, la défensive doit accorder une attention plus particulière à ce gars-là parce qu'il fait des ravages, là.
Ouais, il fait des ravages, puis écoute, les précisions des passes de Jalen Daniels sont
Ouais.
assez impressionnant. Là. Tu regardes, il fait son tracé, il a juste à. Écoute, il tire les bras, puis le ballon, il tombe des mains. Là. En moyenne, la semaine passée, McLaurin, c'est 21 verges par attrapé. Donc ça veut dire que soit c'est beaucoup de verges à l'attraper, mais également, je trouvais que les Commanders avaient énormément de jeux explosifs. T'sais, je voyais Jalen Daniels qui lançait des longues passes. Je me dis, bon, ça va peut-être être échappé, mais écoute, souvent, ça fonctionnait contre les Lions, des longs jeux, puis. Comme tu l'as dit, McLaurin, c'est son arme numéro un. Il est
Et
très, très, très dynamique.
si justement les Rams avaient tenté un petit peu plus cet aspect-là, d'être plus explosif, on l'a tenté à quelques reprises, ça n'a pas fonctionné, mais possiblement que si on avait eu plus de succès dans cette facette-là, les Ghosts seraient en vacances. Je pense que ce n'est pas farfelu de dire ça. On assiste aussi à l'éclosion d'un receveur, là, Diami Brown. Il
Oui.
avait capté seulement 308 verges cette saison. Il n'a pas été un facteur du tout lors de l'année, mais dans les deux derniers matchs, c'est 89, 98 verges. On a là deux candidats à des très longs jeux. Donc, d'autres options aussi intéressantes. Là, le porteur Austin Ekeler, qui est capable de souvent dérober là, suite à un bloc, aller offrir une option pour son corps arrière, une courte passe et des verges après l'attraper. Zach Ertz, qui n'est plus l'allié rapproché d'antan, mais dans des courts gains, c'est une valeur très, très sûre. Donc, on a quand même beaucoup, autant qu'on disait que ça risque d'être difficile. Pour Daniels d'aller juste de l'avant avec McLaurin, certains joueurs sortent du lot et ça prenait ça pour les Commanders.
Oui, il step up au bon moment. Puis, tu sais, sur Zach Ertz, dernier match, en termes de verges, c'est pas incroyable. Là. On parle de 28 verges, mais c'est dans les moments importants qu'il a fait ses catches. C'est un gros touché également. Donc, capable de bloquer aussi. Fait que, comme tu dis, c'est oui, McLaurin, mais c'est bon que, justement, les autres puissent step up. Puis, sais-tu quoi? Des fois, des joueurs ordinaires qui jouent avec un excellent corps arrière, ben, l'excellent corps arrière les rend meilleurs. T'sais, est-ce que
Absolument.
Jaden Daniels est dans cette
Tom
catégorie-là?
Brady en a fait une carrière pas mal.
Ben ouais, exactement. Fait que, oui, effectivement, McLaurin, mais les autres, je pense que Jaden Daniels est en mesure de les faire bien paraître, là.
Un bon point. Je parlais un petit peu de l'attaque au sol de Jaden Daniels. On a quand même d'autres options là, avec Robinson et Ekeler. On est dynamique, ça peut venir de tous bords. Donc, c'est un aspect intéressant aussi de l'attaque. On parle de Jaden Daniels. La confrontation est succulente contre la défense des Eagles, qui est première contre la passe. On a eu quelques pépins, mais on va le dire que la semaine passée contre les Rams, la perte de Quinion Mitchell a grandement affecté cette défensive-là. Blessure à l'épaule. Sa présence est extrêmement importante. Et tout de suite, Matt Stafford est allé attaquer son remplaçant,
Oui, qui est logique
Rodgers.
à faire.
Donc, il y a eu beaucoup de longs jeux. Finalement, il a fini avec une interception. Par contre, il a concédé des longs jeux de longs jeux. Donc, le fait que Quinion Mitchell soit présent, très, très important. On a quand même des joueurs qui ont fait le travail, Cooper Dejean, Reed Blankenship. Mais On a consigné quand même beaucoup de verges à Stafford. On devrait être plus efficace cette semaine.
Oui, il va falloir resserrer parce que, comme je disais, j'ai été impressionné à quel point c'est arrivé souvent, les Commanders, des longs jeux contre les Lions, puis ça fonctionnait. Donc, il va falloir qu'ils restent sur leur garde. Puis, j'ai hâte de voir si, justement, la brigade défensive des Eagles, s'ils vont limiter les longs jeux à Jaden Daniels, est-ce que ce jeune corps-là va devenir impatient? Puis, au lieu d'y aller de façon méthodique, puis des courts gains, est-ce que Manny Bostanier va faire comme garde? Sais-tu quoi? Je l'essaye
Vouloir
pareil,
forcer les choses, oui.
Forcer les choses, puis aller d'une interception à un mauvais moment. J'ai hâte de voir. Jusqu'à maintenant, il me présente un sang-froid, mais comme tu as dit, c'est la meilleure défense contre la passe. Donc, c'est un bon clash.
Bon augure. Le secondaire Zach Bond et le joueur de ligne défensive Jalen Carter et ses deux sacs ont été dominants lors de la rencontre contre les Rams. Ouais. Par contre, le front défensif au complet devrait être plus constant. On a semblé complètement absent, particulièrement par moment là, contre les Rams, particulièrement en fin de match où les Rams ont fait leur première séquence pour le toucher. Là, c'en était presque désolant. Oui, exactement. Ouais. Dans les deux séquences en fin de match des Rams, on n'a absolument pas été un facteur là, à part à la fin quand Jalen Carter a fait un de ses sacs. Mais on doit être plus constant si on veut vraiment là, épauler le restant de notre défensive. Point à noter aussi, ça a été la performance assez ordinaire de notre batteur Jake Elliott. On a failli l'échapper à cause de ses transformations manquées. Il en a manqué 2 sur 3. Ça va vraiment prendre une meilleure constance de son côté.
Absolument.
On se transpose vers l'autre match, là, la cerise sur le Sunday, dimanche 18h30, les Bills contre les Chiefs. Ce n'est pas la première fois qu'on voit cet affrontement dans les séries éliminatoires de la NFL. On s'est affronté une fois cette année, victoire de 30-21 des Bills à la semaine 11. C'était à domicile pour Buffalo. Les Chiefs sont invaincus à domicile et malheureusement pour les Bills, ce n'est pas la même équipe à la maison qu'à l'étranger. On est 5-4 à l'étranger cette année. Donc, ça a été pas mal plus difficile pour eux de prendre les devants à l'étranger. Mais quand même, on aura le droit à tout un clash. Commençons avec l'attaque des Chiefs, où on a vu un peu une chimie entre Pat Mahomes et Travis Kelce renaître. Là. Je pense que c'est... je pense que tu en parlais lors de notre premier podcast au début de ces éliminatoires-là, qu'on s'attendait à ce que Kelce émerge après une saison plus difficile. Ben, ça a été le cas encore une fois. Là.
Exactement, mais écoute, bien honnêtement, le jupon dépasse, mais les Chiefs, je suis un petit peu tanné pour diverses raisons, mais j'étais surpris à quel point Kelce était libre souvent en plein centre, puis ouais. Que la caméra, elle zoome sur lui. Il n'y a pas un joueur proche pour faire un plaqué.
J'ai l'impression qu'on l'a sous-estimé.
Oui, c'est comme si, exactement, si on surveillait d'autres mondes, mais écoute, finalement, ce gars-là, c'est des mains sûres. Mais sais-tu quoi, des fois, des tracés, tu sais, Kelce et Mahomes, ils se connaissent vraiment, vraiment bien.
Ouais.
J'ai l'impression que Kelce, c'est un peu un électron libre. Là. Il a un tracé en tête, mais s'il voit que ça ne se présente pas, il voit une chose que Mahomes, il voit la même affaire, puis écoute, mais c'était tout le temps au milieu du terrain, il était libre comme l'air, fait que il va falloir le surveiller, là. Ça va être un facteur le prochain match, tu sais, 117 verges le dernier match, c'est énorme pour un allié rapproché. Là.
Mais aussi vrai que c'est que Kelce a été dominant, si jamais on effectue une belle couverture sur lui, il va falloir que Mahomes soit capable d'aller à d'autres options, ce qui n'a pas été le cas dernièrement. Là. Ça pourrait laisser plus de place à un Xavier Worthy, DeAndre Hopkins. Par contre, on a eu beaucoup de difficultés du côté de Mahomes à faire aller cette attaque-là, qu'elle soit dangereuse séquence après séquence. Ça a paru laborieux à quelques reprises là, la semaine passée contre les Texans.
Oui, absolument. T'sais, Worthy, quelques attrapés clés, le troisième essai, il était capable, mais ça n'a pas été... Ça n'a pas été la machine qui a drivé les Chiefs. Puis, écoute, c'est un petit peu comme cette saison. Tu sais, Mahomes, il n'a pas connu une grande saison non plus. Ce n'est pas les chiffres auxquels on est habitué de le voir. Puis, mais c'est-tu quoi? Il pousse la limite de de pas avoir d'armes pour Mahomes, puis ils sont encore là. Fait que,
Ce
ils
qui
trouvent
pourrait
le moyen de
l'avantager,
gagner.
c'est que justement, la défensive des Bills, 24e contre la passe. La semaine passée, ça a été quand même un petit peu compliqué par moment contre Lamar Jackson. La tertiaire sera vulnérable si certains joueurs ne sont pas là. Là, on pense au maraudeur Taylor Rapp, qui a une blessure à la hanche. Ça a changé tout de suite la défensive là, quand il a quitté lors du dernier match.
Ouais.
Christian Benford est accommodé avec une commotion cérébrale aussi. La semaine dernière, ça a paru aussi lorsque Taron Johnson, le demi de coin, a quitté. Donc, on est solide, mais on est fragile. La ligne défensive des Bills a réussi seulement deux sacks dans les deux derniers matchs, donc quatre au total. Lorsque le gros front défensif des Texans en a quand même juste eu trois. Donc, on affronte aussi une ligne offensive des Chiefs qui ont trois joueurs sur le Pro Bowl. Ce ne sera pas facile de se rendre à Mahomes. Alors que justement, là, je parlais du front défensif des Texans, là, on est de loin devant les Bills en termes de pression sur le corps et on en a juste eu trois. Il va falloir que quelqu'un lève son jeu d'un cran, que ce soit Greg Rousseau, que ce soit Von Miller, Ed Oliver. Va falloir que quelqu'un step up là.
Oui, absolument. Mais tu sais, les Texans, ils ont eu, je pense, comme tu disais, trois sacs du corps, mais ils ont eu quelques plaqués ou peut-être c'était des pénalités semi-douteuses, si on veut, là, contre roughing the passer.
Oui,
Donc, on a
effectivement.
rudoyé le passeur, que même Troy Aikman et Joe Buck en revenaient pas en regardant les reprises. Ils disaient, oh, come on, tu sais, not again. Et, écoute, mais ceci étant dit, effectivement, il va falloir mettre la pression, mais. Tu sais, aller saquer Pat Mahomes, ça, c'est un gars super intelligent qui, justement, est capable de voir la pression arriver. Donc, c'est assez rare qu'on est capable de se rendre. Mais ne serait-ce que presser son geste de passe, le forcer à se débarrasser du ballon, ça va être très, très, très important. Parce que si tu donnes du temps à Mahomes, on parlait de Kelce tantôt, dès que les jeux s'étirent et les deux sont connectés, puis Kelce va trouver une façon de se libérer. Donc, ça va être de se rendre, il va falloir qu'il se débarrasse du ballon parce que soit il est capable de trouver un receveur si les jeux s'étirent ou sinon il y a une rapidité surprenante des fois à Mahomes quand il se met à courir. Il est capable de trouver les lignes pour faire une petite faufilade du corps ou un
Absolument.
jeu improvisé. Donc.
Si on compare cette édition des Chiefs avec les deux précédentes, ils ont mené vers une victoire des Super Bowl, on avait un jeu au sol dynamique en santé. Ce n'est pas du tout le cas cette année. On a un Kareem Hunt qui n'a pas dépassé les 60 verges au sol depuis la semaine 13. Isaiah Pacheco, depuis son retour de blessure vers la fin novembre, n'a pas dépassé 55 verges au sol dans un match. La plus grosse menace pourrait être Pat Mahomes, mais on a toujours eu un porteur de ballon, soit il y a quelques années là, avec Williams, Deron Williams, je pense. Isaiah Pacheco, dans les deux dernières années, on était une menace. Mais c'est pas le cas et c'est une. Quoi qu'on pourrait, on pourrait être surpris. Il n'y a rien qui laisse présager que ces joueurs-là vont avoir le momentum pour être. Dominant dans un match. Donc, si on est capable justement de limiter un petit peu Pat Mahomes, quitte à avoir une ligne défensive à trois, on sait qu'on aime avoir beaucoup de joueurs dans la défensive des Bills, des joueurs athlétiques, peut-être un petit peu moins gros, mais le fit semble très bon pour eux contre les Chiefs qui ne sont pas vraiment établis au jeu au sol. Donc, on semble avoir les éléments en place pour contenir cette attaque-là. Ça risque d'être très intéressant.
Non,
L'autre
exact.
côté,
Puis,
vas-y, vas-y, non,
j'allais juste dire,
termine.
c'est Melano qui était blessé aussi, qui est revenu pour les Bills. Ça,
Incroyable son impact. On
c'est
le
très,
voit
très
là,
solide.
constamment. Il regarde ce qui se passe. Il effectue des changements.
Ouais.
Notons aussi l'excellent match là, de Hamlin
Ben
qui
oui.
est vraiment le cœur de cette défensive-là. Là. Si Matt Milano, c'est le général, Hamlin, c'est le cœur.
Absolument.
Donc, de beaux éléments. On n'a pas de grands joueurs vedettes, mais
C'est une belle
tout le
unité.
monde est bon, tout le monde fait son travail. La semaine dernière, contrairement à la précédente, Josh Allen est resté très conservateur dans ses choix. On s'en parlait dans notre petit groupe de collaborateurs du Dans l'arrêt de football. Il n'a pas eu à le faire. Je pense que si Je pense que si les Ravens avaient créé l'égalité, on aurait vu un Josh Allen qui force la note puis qui aurait poussé, puis que je pense qu'on aurait eu du succès à ce niveau-là. La tertiaire des Ravens ne concédait pas vraiment les zones profondes, mais a délaissé un petit peu les zones intermédiaires, ce qui a poussé Allen à juste y aller tranquillement, faire son petit bonhomme de chemin. Ça a marché, là.
Ça a fonctionné, puis ça a fonctionné très, très bien. Puis c'est ça, comme tu disais, on s'écrivait, c'est vraiment le Josh Allen 2.0. Puis juste avant de rentrer dans le podcast, j'écoutais une entrevue d'après-match, un journaliste qui a demandé, Mané, il essaie de faire la foufoulade, un genre de touche-push pour le toucher, puis ça marche pas. Il y a des gars, puis là, il se retourne, puis tu avais James Cook, puis tu vois qu'il essaie de prendre le ballon, puis il a passé une fraction de seconde à une passe latérale, un peu jeu improvisé, un peu dangereuse, puis finalement, il l'a gardé, puis ils se sont repris après, tu sais. Puis là, le journaliste demande à Josh Allen, il dit, as-tu pensé de faire la latérale à James Cook? Puis il le regarde, fait un petit sourire, il dit, non. Puis là, il dit, non, mais sérieusement, il dit, ben, écoute, l'ancien Josh Allen l'aurait peut-être fait, mais c'est du quoi, je l'ai pas fait. Fait que je trouve que c'est un petit peu ça, puis il a beaucoup maturé, puis c'est pour ça qu'on parle de Josh Allen cette année comme MVP. Il a vraiment mieux protégé le ballon. Puis, il se rend compte petit à petit que ça fonctionne quand même. T'sais. C'est une attaque méthodique. C'est pas obligé d'être explosif. Tu as juste à avoir la victoire en tête. Puis, fais confiance à tes gars, à ta défense. Puis, ça va fonctionner. T'sais.
Je trouve que Josh Allen, particulièrement lui, là, mais l'attaque des Bills au complet, n'a jamais été aussi dangereuse dans la zone payante. Il joue de manière tellement intelligente. Là, on le dit, là, il ne connaît pratiquement pas de revirement, là, seulement 6 interceptions cette année, 2 échappées qui ont été perdues. Mm-hmm. Mais du haut de ces 6 pieds 5, ça arrive fréquemment, justement, dans la zone payante, qui va aller marquer des touchés de 10-12 verges. Il n'est pas facile à plaquer. Donc, on a cette triple option là, avec une course de sa part. On peut utiliser nos porteurs de ballon. Il est excellent aussi pour cibler des ouvertures qui peuvent venir de ses receveurs, qui peuvent venir à des touchés. Donc, si les Chiefs concèdent beaucoup de verges aux Bills, si Josh Allen termine avec un 300-350 verges par la passe, ça veut dire qu'il va souvent s'être avancé sur le terrain. Donc, il a visité la zone payante. Je ne serais pas surpris que les Bills mettent beaucoup de points au tableau, même si la défensive des Chiefs est très, très forte. Donc, mm-hmm. justement, la grande force de Josh Allen, tu l'as dit, il a maturé et il se rend compte que si le meilleur jeu, c'est de foncer, ben, il va foncer, puis il protège le ballon, puis ça fonctionne. Là.
Non, exact. Puis, tu sais, je regardais, tu sais, les jeux, les Chiefs sont 18e contre la passe. Donc, je pense que c'est là qu'il va falloir que les Bills, tu sais, Josh Allen installe un petit peu plus son jeu aérien que le dernier match, ouais. Même s'il n'en a pas eu besoin. Il va falloir que ça fonctionne parce que contre le sol, là, les Chiefs sont quand même 8e. Donc, sont un petit peu plus performants. Là.
On a très peu utilisé avec régularité nos nombreuses cibles qu'on a du côté des Bills jusqu'à présent en éliminatoire. Khalil Shakir a été le plus ciblé, là. Mais pour avoir une chance de gagner, je pense que Josh Allen doit atteindre un passing rate d'environ 102. Donc, doit réussir un petit peu plus ses passes. S'il faut impliquer, on a gardé un petit peu nos receveurs les plus explosifs, là, Keon Coleman et Amari Cooper. On dirait qu'on les a gardés un petit peu en laisse. Ben, ouais. Peut-être que là, on va les laisser aller. On semble toutefois avoir un petit manque de confiance du côté ou de chimie entre Allen et Cooper. On affronte une tertiaire qui est vulnérable, si je peux me permettre. Mis à part Trent McDuffie, qui était excellent la semaine passée. L'unité de secondaire aussi a été très bonne. Mais à part McDuffie et Justin Reed, c'est faible un petit peu au niveau de la tertiaire. Ça pourrait être un avantage du côté de Allen.
Oui, absolument. Puis comme je l'ai dit, c'est là que je pense qu'Allen, il faut qu'il en profite. Comme tu disais, des Amari Cooper, je pense que peut-être un manque de confiance. On dirait qu'Allen, il est comme frileux à le viser, mais il pourrait se réveiller là, contre cette défensive-là qu'ils ont plus de difficultés contre le jeu aérien. Tu as nommé les deux joueurs, mais après ça, c'est Brian Cook, après ça, c'est Jalen Watson, Jamari Connor, donc c'est peut-être pas les gros joueurs étoiles là, qui vont être en mesure de faire des couvertures homme à homme si on fait des blitz, parce qu'on sait que le coach des Chiefs là, va blitzer à souhait probablement, donc couverture homme à homme. Mais Josh Allen est assez intelligent, puis s'il connaît bien, évidemment qu'il connaît bien le tracé de ses receveurs, mais capable de décocher rapidement. Là. Donc, il va voir les blitz arriver, puis je ne serais pas surpris qu'il soit capable de s'en sortir. Là.
Un élément du côté de la défensive des Chiefs qui a très bien fonctionné la semaine passée, c'est la pression sur le corps adverse. On a réussi 8 sacs contre les Texans, là, dont 3 de George Karlaftis.
Ouais.
On affronte toutefois une bien meilleure ligne offensive, là, celle des Texans. C'est pas fameux. On a concédé seulement 3 sacs en 2 matchs du côté de la ligne offensive des Bills. Donc, on aura un match-up très intéressant de ce côté-là. Malgré que les Chiefs, tu l'as dit, là, 8e contre la course avec un Chris Jones, l'attaque au sol des Bills est très intéressante. On court beaucoup du côté de Allen. James Cook, un porteur plus athlétique et capable d'aller chercher de nombreuses verges. J'ai beaucoup aimé l'utilisation de Ray Davis aussi qui fonce en puissance.
Ouais.
Donc, 3 joueurs qui amènent un dynamisme très varié pour cette attaque au sol des Bills. Donc, on aura une belle confrontation là.
Oui, vraiment. Puis, tu sais, tu disais tantôt, le gabarit de Josh Allen, c'est 6 pieds 5, 237 livres. Ça a beau être le corps arrière, mais il est vraiment pas frileux. Puis, il trash talk tellement sur le terrain. C'est un gars qui joue avec hang, avec attitude. Fait que c'est lui aussi, là, il va en puissance, puis il n'est pas gêné d'y aller. Puis, écoute, il faut qu'il en profite, absolument. Puis, James Cook, c'est pas le demi-offensif tout étoile, mais il fait quand même très, très bien son travail. Puis, tu sais, je regarde si dernier match, 67 verges. C'est sûr que c'est pas fameux, mais après ça, si Allen y complète, ça devient quand même un jeu au sol qui peut être dangereux. 120 verges la semaine d'avant contre Denver. Donc, il est capable quand même de connaître d'excellents matchs, d'aller chercher du gros yardage. Puis, ben c'est ça. S'il installe le jeu au sol, ça va être très payant pour la suite. Puis les défensives se fatiguent. Souvent, on voit, tu sais, je regardais les statistiques de Derrick Henry, première demi versus deuxième demi. C'est le jour et la nuit. Donc, faut quand même rester fidèle, même si ça fonctionne pas tout le temps. Pas toujours trop être prévisible. Puis on y va avec Allen, on y va avec James Cook. Comme tu as dit, Davis, le marteau en puissance. Puis il va falloir avancer avec ça, là.
La clé pour les Bills sera surtout d'être aussi dominant à l'étranger qu'on a pu l'être à la maison. Donc, on n'est pas à Buffalo. On parlait tout à l'heure de full hostile. Ben, avec les Chiefs, c'est exactement ça. Au moins, on ne sera pas en terrain inconnu en ce qui a trait à la température et le froid. Là, on est habitué du côté des Bills. J'aime toutefois leur mentalité, là. Dans les derniers jours, certains joueurs ont dit de manière un petit peu timide, là, l'anonymat, on est resté anonyme dans nos commentaires, que les joueurs des Ravens, ben, ils vont pouvoir aller librement au Pro Bowl. Les nombreux joueurs invités au Pro Bowl vont pouvoir s'y rendre puisqu'ils sont, ils ont été éliminés. Donc, l'essence qui ressort de tout ça, c'est que, mis à part Josh Allen, on n'a pas de joueurs, de grands joueurs vedettes. Par contre, on a un bunch de joueurs qui ont faim, qui veulent vaincre et surtout qui veulent se rendre au Super Bowl. Donc, j'aime l'état d'esprit. Comme j'ai dit, reste à voir si on pourra transposer ça à l'étranger.
Oui, absolument.
C'est ce qui fait le tour, justement, de ces deux affrontements auxquels on aura droit le dimanche. Je vais te demander de te mouiller, là. J'ai fait ça avec Thierry la semaine passée aussi.
Ben oui.
Évidemment, je pense que beaucoup de très peu de gens devaient avoir prédit une victoire des Commanders. Mais ça a mené quand même à une perspective intéressante. Là, Thierry est allé du côté des Ravens, je suis allé du côté des Bills. Donc, ça a mené quand même à quelque chose d'intéressant. On s'en parlait de l'autre côté. Mais là, on se demande vraiment si les Bills ont finalement ce qu'il faut pour déloger les Chiefs. Commençons du côté des Eagles Commanders. Est-ce que la solide défensive des Eagles va avoir les dessus sur la recrue par excellence, Jalen Daniels? Qu'est-ce que tu en penses?
Ben moi, je pense que Jalen Daniels va quand même garder son sang-froid, mais les Eagles sont vraiment trop talentueux, je trouve, cette année. Écoute, je vais y aller avec une victoire même pas serrée des Eagles, moi je te dirais. Ouais, je pense que ça va être une. Ouais, je pense que les Eagles vont leur passer sur le corps. Ça a été un match très émotif pour les Commanders la semaine dernière. Puis honnêtement, je trouve que Philadelphie ils sont trop talentueux pour avoir de la difficulté contre cette équipe-là.
Notons quand même que l'entraîneur Dan Quinn a eu beaucoup plus de succès que son autre collègue Dan avec ses quatrièmes essais en éliminatoire.
Oui.
Reste à voir si ça pourra continuer. De mon côté, je me range du même côté de toi. Par contre, je vais amener un bémol. Autant que je trouve dominante la défensive des Eagles, si Jalen Hurts présente les mêmes attributs et le même aplomb que la semaine passée, surtout qu'il ne court pas, et s'il en venait à ce qu'ils doivent quitter le match, je ne pense pas que les Eagles pourraient traverser les Commanders avec un Kenny Pickett. Donc c'est une réponse un petit peu conservateur, mais je vais dire que si on a un Jalen Hurts qui est correct, passable, on devrait être limite. Si on a un Jalen Hurts qui est en grande forme, ben, je pense que je me range de ton côté que on devrait avoir un match un peu moins serré. Ce qui nous mène de l'autre côté, ça, je pense que dans tous les cas, on ne quittez pas votre téléviseur trop tôt dimanche soir. N'allez pas vous coucher. N'allez pas donner le bain aux enfants. Il ne faut pas quitter du tout la télé parce que ça risque d'être bon
Vous
jusqu'à la
laissez ça
toute
à
fin, là.
madame.
Est-ce que tu penses que finalement les Chiefs peuvent être délogés cette année?
Écoute,
C'est pénible, hein?
ouais. Écoute, j'ai goût. C'est dur de miser contre Mahomes.
Ah,
C'est ça.
c'est tellement
À
dur.
chaque fois qu'on rentre dans les éliminatoires, puis Mahomes est là depuis qu'il est rentré, on le voit pas perdre bien, bien souvent. Hein, il y a eu un Joe Burrow une année qui l'a battu, mais sinon.
C'est le seul.
Écoute, moi, je pense que cette année, je pense que c'est leur année, les Bills. D'après moi, ils vont passer, mais ça sera pas. Ça va être serré, ça va être jusqu'à la dernière seconde. J'ai juste peur que c'est arrivé souvent pour Josh Allen. Il fait le travail, gros match, grosse attaque. Puis là, il reste, je sais pas, moi, 45 secondes, il est assis. Puis là,
Mahomes
Mahomes
fait de
prend
la
le
magie de
ballon,
l'autre part. Ouais.
trouve le moyen d'aller gagner. Fait que, écoute, mais je vais y aller avec les Bills, mais honnêtement, je suis le prêtre en dessous, puis
Moi,
je vais aller avec les Bills.
autant que je me disais justement, les Chiefs invaincus à domicile, les Bills, c'est plus difficile à l'étranger. Beaucoup de facteurs qui me faisaient pencher du côté des Chiefs. Je trouve qu'on est moins dominant dans des positions quand même importantes. On sait que c'est un bon jeu au sol qui prépare une bonne attaque aérienne, mais peut-être que Pat Mahomes a de la difficulté avec son jeu aérien parce que les autres équipes adverses savent qu'on a de la difficulté avec notre jeu au sol. Donc, cet aspect-là, notre tertiaire, je pense que, mis à part, comme j'ai dit, Trent McDuffie, on va attaquer certaines cibles qui sont plus vulnérables dans la tertiaire des Chiefs. Donc, possible, j'y mettrai pas la maison, mais et peut-être qu'encore une fois, on s'en voudra d'y aller contre les Chiefs, mais force est d'admettre que dans les dernières années,
Il
c'est
leur manque des éléments.
probablement l'édition. Et là, il y en a plusieurs qui vont dire, ouais, ben, les Chiefs, les dernières années, c'était moins bon. Ben, peut-être l'attaque, oui, mais en défensive, ça a toujours été très, très solide. Là, on a vu de grandes faiblesses, on a vu des ratés cette année. Là, même comme j'en parlais avec Thierry la semaine passée, leur fiche n'indique pas vraiment la réalité.
Non.
Donc, on est un petit peu moins solide à ce niveau-là du côté des Chiefs dans quelques aspects importants. Donc, j'y vais aussi d'une victoire des Bills. Donc, un Super Bowl
Oh, let's
Bills-Eagles,
go.
je pense qu'on serait quand même très content, satisfait. Notre ami Thierry risque d'être très stressé jusqu'à
Oui.
la toute fin. Alors, je te remercie beaucoup, Michael, pour cette participation au temps d'arrêt. Là, c'est, comme j'ai dit, on a donné congé à Thierry cette semaine.
Ben oui, c'est bien correct.
Et on va remettre ça les trois ensemble dans notre gros épisode du Super Bowl. Encore une fois, on risque d'être là pour une analyse mur à mur, là, une bonne heure certainement de couverture. On laisse rien, rien, rien en jeu. On prend en considération tous les détails. C'est ce qui fait la beauté du Super Bowl. Toutes les notions, chaque virgule est
Ben
importante.
oui.
Donc, on va aller jusqu'au bout, cette grosse couverture qu'on a décidé de faire au temps d'arrêt cette année. Donc, on espère que vous avez apprécié cet épisode et que ça vous aide un petit peu à vous préparer pour ce match pour les deux matchs de dimanche. Alors, encore une fois, Michael, je te remercie beaucoup, puis on remet ça là, dans 2 semaines, dans la semaine qui va précéder le Super Bowl.
Yes, c'est un réel plaisir. On se souhaite des bons matchs.
Merci à tous d'avoir été présents. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et puis, bon football et à un prochain épisode du Temps d'arrêt.